Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
François Vivez, un navigateur insatiable. Un drôle de lascar, ce François Vivez, est doté du destin peu commun d'être un des trois narrateurs du Tour du Monde de Louis-Antoine de Bougainville. C'est le récit le plus méconnu, mais aussi certainement le plus véridique et le moins complaisant. Notre héros est oublié, sans doute pour ne pas faire d'ombre à son illustre commandant. Il se démarque aussi du lyrisme rousseauiste de Commerson, son compagnon de bord. Mais commençons par le commencement. La famille de François Vivez est gasconne. Mais son père, Jean-Baptiste, chirurgien de l'amirauté de Guyenne, est nommé à Rochefort, où il terminera sa carrière et décédera en 1780. François Vivez naît donc à Rochefort le 14 septembre 1744. La fratrie de 8 compte un autre chirurgien de la Marine royale, son frère Gaspard. Dès l'âge de 7 ans, François Vivez embarque en 1751 sur le vaisseau Le Formidable, dont son père est chirurgien-major. Il sert aussi en tant que pilotin, puis intègre en juin 1757 l'école de médecine de la marine de Rochefort. En pleine guerre de 7 ans, François, outre ses cours, s'occupe des blessés à l'arsenal. À 16 ans, il est nommé aide-chirurgien en mai 1760, navigue sur divers vaisseaux, accomplit deux voyages en Guyane qui lui laissent d'ailleurs une impression sinistre en raison d'épouvantables conditions sanitaires. Il rentre en 1766 où il est promu chirurgien en second. Il apprend alors qu'une flûte, l'Étoile, est en armement à Rochefort en vue d'une circumnavigation qui est commandée par le roi Louis XV afin d'une part de régler la cession des Malouines à l'Espagne et ensuite de procéder à une exploration de l'océan Pacifique que le commodore Byron a commencé à conquérir pour le roi d'Angleterre. De Giraudet commandera la flûte, tandis que Louis-Antoine de Bougainville assurera le commandement de l'expédition depuis la Boudeuse qui est en armement à Brest. Cette dernière quitte donc Brest le 6 décembre 1766 et la flûte, partie de Rochefort le 1er février 1767, la rejoint à Rio de Janeiro où les deux unités appareilleront pour le Pacifique en juillet. La Boudeuse et la flûte ne se quitteront plus jusqu'à l'île de France, maintenant île Maurice, en novembre 1768, donc presque 2 ans de navigation. Pendant ce long périple dont on a du mal à imaginer de nos jours toutes les incertitudes et les péripéties, François Vivez, outre les obligatoires écritures de bord, rédigera pour lui-même un récit très authentique, sans fioritures, plein de spontanéité, témoignage inestimable, non dépourvu de critiques d'ailleurs, et souvent plein d'étonnement du fameux voyage de Bougainville. Au 1er mai 1767, la flûte arrive à Montevideo. L'occasion pour notre héros de dresser un tableau peu édifiant de la société et de la colonisation espagnole. Je cite: un ramassis de paresseux, de débauchés, tous superstitieux et hypocrites. Il est horrifié par le traitement réservé aux autochtones, maintenus dans leur misère, mais ébloui par la richesse de la nature, sa beauté, la fertilité du sol, l'abondance des troupeaux. Rio de Janeiro, rallié fin juin, ne vaut guère mieux malgré sa grande beauté. Habité par des hypocrites et des barbares, écrit-il. La canaille règne, un rosaire dans une main, un poignard dans l'autre. Les mœurs y sont légères. L'Inquisition relève l'esclavage des femmes après le coucher du soleil, écrit-il. Toutefois, il remarque l'intense activité commerciale et la prospérité de certains quartiers. Les relations avec les Portugais sont si difficiles que Bougainville décide de repartir via Montevideo, où différents incidents gâchent l'escale, pendant laquelle Vivez tombe à l'eau en essayant de repêcher un matelot, contracte une pleurésie et manque de trépasser. Le 14 novembre 1767, la boudeuse et l'étoile appareillent pour le Pacifique. On connaît la besogneuse route choisie par Bougainville dans le détroit de Magellan. Plus de 50 jours dans des vents et des courants contraires, des boyaux d'eau dans lesquels il faut rebrousser chemin. Toutefois, cette lenteur permet à Vivez de prendre contact avec les Patagons dont l'accueil est aimable et dont il admire, je cite, « la vigueur, le teint vif, la qualité des dents, leur carrure extraordinaire ». Le contraste est total et reste inexpliqué avec les sauvages des bois rencontrés plus loin, petits, malingres, rachitiques, avides de nourriture et de vêtements, dont on sait d'ailleurs maintenant que ce sont en fait des Polynésiens qui ont traversé le Pacifique sur des radeaux et ont échoué près de la cordillère des Andes. Fin janvier, on sort enfin du détroit et la route vers Tahiti est sans problème. L'île est atteinte les derniers jours d'avril. Il était temps, car le scorbut commence à affaiblir les équipages. Les beautés naturelles de Tahiti n'impressionnent pas François Vivez. Il est, dans son récit, bien moins lyrique que Commerson et moins littéraire que Louis-Antoine. Par contre, il est totalement séduit par la gentillesse des Tahitiens. Jamais nous ne vîmes une arme défensive, mais au contraire des palmes et parures de bon accueil, dit-il. Il est surtout ébloui par la beauté des Tahitiennes dont il remarque la carnation claire et la peau qu'il dit lustrée. Les Français relâchent 10 jours à Itia. Observateur fort sérieux, Vivez remarque la qualité de l'eau douce, l'abondance des bananiers, des cocotiers, des arbres à pin, ainsi que l'excellence de l'architecture des pharées. Il observe le sens de la hiérarchie de cette population, la pratique régulière des rites religieux, les tatouages et leurs symboliques, les pratiques funéraires, l'usage d'instruments de musique, tambours et flûtes. Il admire aussi l'outillage et le matériel de pêche. Les filets en fil de coco, dit-il, sont bien supérieurs à ceux français. Il remarque le goût pour le chapardage, le mensonge qui est comme un jeu. Il s'interroge aussi sur la pratique de la polygamie sans en décrypter toutes les règles. Il fait l'inventaire des maladies qu'il peut déceler, celles des poumons, les maladies vénériennes, la lèpre, la gale, une forme de rougeole, des toux suspectes. Quelques incidents gâchent la fin du séjour. À la suite de vols, 3 ou 4 Tahitiens sont tués par les marins. Il faut négocier avec le chef, lequel, avec sagesse, recommande le départ. On fait donc route vers l'ouest, vers les Samoa, puis vers un archipel qui est déjà baptisé Nouvelles-Hébrides par Cook. Le besoin de bois et de vivres frais oblige à une escale un peu longue, pendant laquelle François Vivez observe les Mélanésiens qui, dit-il, sont vilains, aux cheveux lainés de taille moyenne, peints en rouge, blanc et noir, souvent couverts de gale et de lèpre, avec des femmes horriblement laides. Ces gens sont armés et plutôt agressifs, donc Bougainville décide de continuer vers l'ouest jusqu'à la Grande Barrière australienne. C'est la partie la plus pénible de tout le périple. La remontée est lente, les eaux sont hostiles. Bougainville ne connaît pas le détroit entre la Nouvelle-Guinée et l'Australie, le détroit de Torres, ce qui oblige à un énorme détour pour arriver enfin en piteux état en vue de l'archipel des Salomon. Vivez écrit « Nous avons failli périr de désespoir, de rage et de peine ». Mais les habitants se montrent plutôt agressifs et aucun bon mouillage n'est possible. Enfin, le 7 juillet, une belle baie à l'extrémité de la Nouvelle-Irlande permet de relâcher. Mais seuls du bois et de l'eau sont embarqués. Les conditions de vie deviennent très dures. On déplore le premier décès. On répare, on nettoie, et le 24 juillet, on repart par très mauvais temps, harcelé par les pirogues des Mélanésiens, que Vivès décrit avec beaucoup de précision. La boudeuse et l'étoile se traînent tout le mois d'août pour enfin entrer dans la mer des Moluques où on espère le secours des comptoirs hollandais. Une tortue de 150 kilos permet de mieux nourrir l'équipage pendant 2 jours. Le 2 septembre, enfin, on mouille à Boucro. Mais les Hollandais du comptoir sont assez peu accueillants car ils ont eux-mêmes de gros soucis d'approvisionnement. Toutefois, on se requinque et on répare, et malgré les pirates, on aborde enfin Batavia le 28 septembre. La suite du voyage est facile et plus paisible, l'escale du Cap est calme, et après un bref arrêt à l'île de l'Ascension, l'Étoile rentre à Rochefort le 24 avril 1769. Après cette odyssée, François Vivès est nommé chirurgien-major de vaisseau et rembarque dès 1772 sur divers navires, assiste au combat contre les unités britanniques, se marie une première fois en 1781, participe à la guerre d'indépendance américaine et débarque, malade, devenu sourd, probablement à cause de la canonnade, à Boston, le 10 décembre 1782, pour y être soigné. Officier de santé de première classe en 1801, il reste désormais à terre, professeur au Collège de santé de Rochefort, ainsi que directeur de divers hôpitaux de la marine. Devenu veuf en 1787, il se remarie en 1789, choisissant toujours son épouse dans les milieux liés à la marine. Il n'est pas question ici de retracer toute la vie extraordinaire de François Vivès. Toutefois, on peut signaler que, comme la plupart des gens de mer, il traversa tous les changements de régime, de la royauté à la Restauration, sans état d'âme, et, semble-t-il, sans exprimer une autre opinion que celle permettant de servir utilement son pays. Il se retira du service actif à sa demande en décembre 1811, à l'âge de 68 ans, et mourut à Rochefort le 3 septembre 1828, à l'âge extravagant pour son époque et malgré ses rudes embarquements de 84 ans. François Vivès n'était ni un savant, ni un naturaliste, mais le sérieux avec lequel il exerça ses fonctions, les témoignages de Jean-René Croix qui fut son élève et de Pierre-Adolphe Leçon sont autant d'hommages à son parcours. Ses qualités d'observateur font de son journal de circumnavigation un témoignage d'une grande justesse, certainement plus fiable que celui de son chef d'expédition. Ce journal apporte peu au plan géographique, il n'est ni naturaliste ni botanique, mais il constitue la première véritable observation ethnographique des populations rencontrées dans les îles du Pacifique, en Mélanésie et autres lieux, y compris l'Amérique latine et l'Afrique du Sud. On peut noter 2 choses en annexe. En fait, François Vivès nous a laissé 2 versions de son journal de voyage. La première est conservée à la bibliothèque de la Société de géographie de Rochefort et a été écrite pendant le voyage avec quelques modifications et ajouts juste après le retour en France. La seconde, conservée à la bibliothèque municipale de Versailles, est plus complète et a sans doute été écrite à la fin de 1773, car on y trouve une allusion au récit publié par Louis-Antoine de Bougainville en 1772 et surtout le signalement de la faim de Marion Dufresne mangée par les Maoris qui ne fut connue en France qu'en avril 1773. Enfin, seconde remarque, Étienne Taimit, président de l'Académie de Marine, a consacré une assez longue étude à François Vivès qui est publiée par l'Université francophone d'été et date de 1793, dont le présent récit s'inspire largement.